monter un écriteau. Oh, 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 pelouse au repos. Pelouse au repos. Mettre les sentiments et les attachements en utile jachère. Laisser négligemment les aveux, les serments rouler dans la poussière. Endormir les chagrins parmi les boulingrins, désapprendre l'ivresse. Se glisser clandestin dans des alexandrins, enterrer les caresses. Rester incognito, oh, 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 garder son écriteau, oh, 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 pelouse au repos.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Continuons donc notre cycle sur le Louvre, et dans l'émission précédente, nous en étions à la Joconde. Et la Joconde, elle se trouve dans la salle des États. Oublions ce nom si malsonnant aux oreilles anarchistes, et retournons-nous. En face de la Joconde, l'un des plus grands tableaux du Louvre, 67 mètres carrés de toile. Un cadre de 6 mètres 77 sur 9 mètres 94. Et, pour nous consoler de ce vilain nom de salle des États, un tableau délicieusement païen. Bon, j'exagère un peu avec le mot « païen », car ce gigantesque tableau est censé représenter l'épisode des noces de Cana, c'est-à-dire le premier miracle du bonhomme Jésus. Il a 33 ans, on l'a invité avec sa maman, Madame Marie, à un banquet de noces, mais manque de chance, tout d'un coup, il n'y a plus de vin. Ce que maman Marie signale à son fiston en lui proposant de faire un petit miracle. Jésus renacle d'abord, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et hop, l'eau se change en vin. Le tableau montre, entre autres choses, un majordome considérant avec stupéfaction un verre contenant un liquide d'un rouge tout à fait vineux. Cette fois-ci, Jésus ne nous fait pas encore le coup du cannibalisme mystique « buvez car ceci est mon sang », mais le cœur y est. Vous m'objecterez donc que de qualifier ce tableau de « païen », c'est pousser le bouchon, pardon du jeu de mots facile, un peu loin. Oui, mais il suffit d'un seul regard pour constater que les moines bénédictins, qui ont commandé ce tableau à Paolo Cagliari di Véronèse parce qu'il est né à Vérone, pour l'énorme réfectoire de l'église, de leur église de San Giorgio Maggiore, une église dont les plans ont été dessinés par Palladio, ces moines bénédictins, disais-je, ne se préoccupaient pas beaucoup de mysticisme et encore moins d'ascétisme. À en croire le pinceau de Véronèse, le banquet a lieu non pas dans une tente de bédouins, mais dans un fabuleux temple grec ou romain, grand ouvert sur le ciel, et on aperçoit au fond un campanile des plus italiens. Quant aux invités, ils portent des costumes d'une splendeur tout à fait vénitienne. Oh, bien sûr, il a fallu y mettre quelques allusions à la mythologie chrétienne. Par conséquent, pile au-dessus de Jésus, que Véronèse a bien dû mettre à l'exact centre de la composition, un cuisinier taille à grands coups de couteau dans une longue pièce de viande, ce qui devrait vous faire vous souvenir que le mythe chrétien veut que Jésus ait été crucifié. Un peu à droite de ce cuisinier, sortant d'entre deux colonnes, un serviteur porte une espèce de brancard sur lequel probablement se trouvent des plats, mais qui fait penser à ceux avec lesquels on évacue les cadavres des soldats sur les champs de bataille. Et les têtes de Madame Marie et de Fiston Jésus portent bien les auréoles de rigueur, mais absolument rien d'autre ne parle de christianisme. Tout, en revanche, parle de ripaille et de beuverie. Et même, complètement à gauche, un personnage dont on affirme qu'il ressemble à François Ier, roi de France, penche son regard vers les seins de sa blonde voisine. Un peu plus haut, le barbu a l'air pas content, et tout simplement, enfin il serait tout simplement, Soliman le Magnifique, le sultan de l'Empire Ottoman. Pas très chrétien, n'est-ce pas? Et puis, regardez sur la partie droite du tableau. Voyez-vous le dos de ce convive en grand manteau bleu? 40 cm au-dessus de lui, vous apercevez ce drôle de bonhomme avec juste un peu de vêtements en noir ennuyeux. C'est le nouveau prieur du monastère. Car le prieur qui avait passé commande à Véronèse et qui lui avait promis 324 ducats, une barrique de vin et les repas gratuits au réfectoire, ce prieur-là, il est mort. Alors, pour s'assurer les bonnes grâces de son successeur, Véronèse peint son portrait sur une autre toile, découpe le visage et le colle, on dit le maroufle, sur la grande toile. Répétons-le, il faut ce qu'il faut. Le musicien en blanc a de très fortes chances d'être un autoportrait de Véronèse. Le barbu roux, debout, en tenue verte, ressemble comme deux gouttes de Chianti au poète pornographe Larétin, et l'autre musicien en vêtements rouges fait nettement penser à Titien. Nous autres guides, nous demandons toujours à nos clients de compter le nombre de chiens présents dans le tableau. Une question piège, évidemment, dont je ne vous donnerai évidemment pas la réponse, mais sachez simplement qu'en 36 ans de carrière de guide à Paris, je n'ai entendu cette réponse que 3 fois et jamais du premier coup. Le tableau a beaucoup souffert, en particulier du désagréable dictateur que ses camarades de classe à l'école militaire de Brienne surnommaient « la paille au nez » à cause de sa prononciation de son prénom napoléonien, Napoléon Bonaparte. On sait qu'en envahissant l'Italie, Napoléon en a allègrement pillé les trésors artistiques, entre autres cette toile, qu'on a alors tranquillement découpée en 7 parties pour la transporter et on les a recollées à Paris. Après la défaite de Napoléon, les Alliés, entendez les Britanniques, les Prussiens, les Russes et les Autrichiens, exigèrent que nous rendions le butin napoléonien et plus précisément ce que Napoléon avait volé en Italie, donc les noces de Cana. Vivant Denon, le premier conservateur du Louvre et incidemment l'homme qui avait décidé quoi piller en Italie, Vivant Denon jura qu'un voyage de retour entraînerait immanquablement la destruction du tableau et qu'il fallait donc qu'il reste à Paris. Sa proposition de donner à la place un tableau de Charles Lebrun fut acceptée. Mais on comprend dès lors la colère des Italiens lorsqu'ils apprirent que pendant la guerre de 1870 et pendant l'occupation nazie, le tableau, qui officiellement ne pouvait pas être déplacé, eh bien, le fut, afin d'être mis en lieu sûr. Aussi, lorsqu'en 1989 on lança la restauration du tableau, on relança ce débat sur où devait-il se trouver. On sait que le Louvre n'arrête pas d'avoir des problèmes parce qu'on ne l'a pas bien entretenu. Et pendant cette restauration, le tableau fut aspergé d'eau et une autre fois, l'un de ses supports en métal cassa, déchirant une partie de la toile. Finalement, on trouva une solution à ce problème de la possession très illégitime du tableau. On effectua une copie d'une parfaite fidélité. Cette fidélité est à présent possible à cause de plusieurs technologies, dont un balayage au laser qui permet à un scanner de précision de déterminer tout ce qui se passe, de numériser tout ce qui se passe. Et quand je parle de précision bien en dessous du dixième de millimètre, qui permet donc à une imprimante 3D spécialement conçue de reproduire non seulement les formes et les couleurs, mais même l'épaisseur des coups de pinceau. Cette copie parfaite a été installée dans le lieu d'origine du tableau, le réfectoire de San Giorgio Maggiore. Et devant un public de 700 personnes très qualifiées, une flopée d'historiens de l'art, une flopée de conservateurs de musées, de restaurateurs, etc., le verdict fut unanime, la copie était aussi bonne que l'original.
Thank you.
c'était Jean-Pierre Amouroux, un boogie pour piano et clavecin. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître ni publicité. Nous sommes les Muses s'amusent, nous continuons notre grand cycle sur le Louvre et ce soir nous parlons des œuvres présentes dans la salle des États. Alors, après l'énorme noce de Cana de Véronèse, vous êtes en face, tournez-vous vers la gauche. Vous apercevrez les pèlerins d'Emmaüs, toujours de Véronèse, peints vers 1560. Encore un tableau pas terriblement chrétien, en dépit de son sujet officiel. Lequel sujet est tiré du Nouveau Testament? Il s'agit de l'une des résurrections, une des réapparitions de Jésus après sa mort. C'est aussi l'une des fables les moins justifiées de l'Évangile. Alors, je vous en donne le texte, ce qui me fait sourire, lire l'Évangile sur Radio Libertaire. Hihi, tout arrive. Donc, voici le texte dans Saint Luc, chapitre 24. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Parenthèse, ce qui s'était passé, évidemment, c'était la crucifixion de Jésus. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Fermez les guillemets. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Fermez les guillemets. Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Voici donc là, c'était le texte de ce miracle des pèlerins d'Emmaüs. On peut se demander ce qui a pris aux auteurs du Nouveau Testament d'y inclure cette histoire sans queue ni tête. Mais c'est oublier une parole fort juste de Tertullien, un théologien du catholicisme, du christianisme, qui un peu plus tard a déclaré, plus ou moins, « Credo quia absurdum, je crois, parce que c'est absurde ». En fait, toute religion qui a un peu de succès, et il faut hélas reconnaître que le christianisme en a eu du succès, toute religion qui a eu du succès comporte des fables bizarres comme celle-ci, qui ont justement pour but de forcer les croyants à brûler leur vaisseau, à croire à l'incroyable, ce qui, paradoxalement mais très efficacement, rend l'ancrage de leur berlue plus fort encore. Cette fable a souvent été représentée dans la peinture occidentale, peut-être parce qu'elle laisse beaucoup de liberté au peintre. Aucune règle iconographique ne dicte l'apparence des pèlerins, ni celle de l'auberge ou du repas. Il ne faut y reconnaître que Jésus et deux hommes qui mangent, de préférence avec au moins l'un des deux surpris. Et le peintre peut ajouter autant d'autres personnages qu'il le veut ou qu'on le paye pour ce faire. Et il semble que ce soit ce qui est arrivé dans ce tableau. Le commanditaire, le donateur, voulait en fait avoir un portrait de sa maisonnée puisque le tableau le représente, lui, sa femme, leurs enfants et même leurs proches servants. Mais en 1560, l'habitude n'est pas encore prise de se faire portraiturer sans avoir une excuse religieuse. Alors on prend l'excuse religieuse et on se fait tirer le portrait. On y discerne très bien deux hommes en vêtements sombres dont l'un au moins a dû commander l'œuvre. Mais vu la ressemblance de ces deux hommes, peut-être ont-ils commandé l'œuvre ensemble. D'autant qu'on voit 10 enfants, oui, 10 enfants dans la scène, ce qui semble beaucoup pour une seule femme. Certes, à l'époque, il était banal qu'une femme accouche 10 fois, mais il l'était beaucoup moins que les 10 enfants survivent. On peut donc imaginer, mais sans autre preuve que le tableau même, que l'on voit 2 frères, leurs enfants, et une seule des 2 mères, l'autre étant peut-être morte entre-temps. Un critique a affirmé que la dite femme serait un symbole de la Vierge Marie, une vierge à l'enfant puisqu'elle porte un bébé dans ses bras, et que son mari serait lui le symbole de Joseph, vu son attitude discrète et le peu d'espace qu'il occupe dans le tableau. C'est oublier un peu vite que si Joseph est choisi pour être l'époux de la Vierge Marie, c'est parce qu'il est vieux, donc impuissant. Afin qu'il ne puisse y avoir aucun doute que le petit Jésus ne vient pas d'une éjaculation, d'une bonne giclée de sperme dans un vagin, mais de, soyons précis, l'opération du Saint-Esprit. En d'autres termes, pour un mari, se faire représenter publiquement Saint-Joseph, c'est crier haut et fort « ce mari est impuissant ». Un cri que poussent très rarement les maris, et moins encore les maris italiens, et moins encore un cri qu'ils vont payer très cher un peintre célèbre pour l'immortaliser cet aveu de cette défaillance sexuelle si humiliante pour l'ego masculin. Déplacez-vous encore un petit peu à gauche, et voilà un tableau bien mystérieux que le Louvre appelle, avec prudence, ouvrez les guillemets, couple mythologique, fermez les guillemets, et qu'il attribue avec non moins de prudence au peintre vénitien Parri Bordone, alors en italien Paride Bordone. Ce tableau défie l'interprétation. Il représente un jeune couple dans les bras l'un de l'autre. Le mâle, son visage tout contre celui de la femme, est à l'évidence plein de désir. La main gauche du mâle saisit tout le sein de la femme, dont l'autre sein est visible parce que dénudé. Mais on a du mal à décider le sentiment du personnage féminin parce que son visage semble fermé, on pourrait presque même dire qu'elle est en colère. Mais elle tient le mâle par l'épaule, et mieux encore, sa main gauche est incontestablement au niveau du pubis du mâle. Alors on ne voit pas le pubis, le peintre y a peint le bas d'une guirlande de feuilles, parfaitement illogique. Le mâle porte une mince couronne des mêmes feuilles, et ce n'est donc pas un Bacchus, parce que Bacchus est couronné de feuilles de vigne, ça n'est pas non plus un Apollon, parce qu'Apollon est couronné de laurier, et ce ne sont pas des feuilles de laurier. D'aucuns ont proposé Vénus et Anchise, parce que quand Vénus copule avec Anchise, donnant ainsi naissance à Énée, futur guerrier de Troie et futur ancêtre des Romains, Anchise n'est encore que berger. Ce qui expliquerait sa couronne de feuilles. Mais l'interprétation manque un peu de certitude, et ce couple reste donc un peu obscur dans sa signification, mais en revanche, il est d'une parfaite clarté dans sa représentation du très évident désir masculin. Continuez le long de ce mur et vous allez trouver un autre tableau d'interprétation difficile. Il s'agit du très bel homme aux gants du Titien que le Louvre date de 1523. Que voit-on ? Juste un homme, noble ou riche ou les deux, jeune. Sans doute encore adolescent ou à peine sorti de l'adolescence, vu sa très faible pilosité. Il ne nous regarde pas, mais Titien le représente relativement concentré, quoique sans aucune autre émotion que nous puissions lire. Ce jeune homme est vêtu de noir, comme l'étaient souvent les classes supérieures de l'Italie du Nord à l'époque du Titien. Noir du vêtement principal, une sorte de casaque. qui fait contraste bien sûr avec le simple blanc de la chemise, et nous avons le gris beige ou un beige gris pour les gants du jeune homme. Aucun prétexte chrétien, aucun élément narratif, juste un jeune homme qui veut avoir l'air ou dont on veut qu'il ait l'air ou qui est peut-être déterminé. Avec ce portrait, la peinture occidentale commence à comprendre que, comme l'on dit en anglais, « less is more », moins et plus, et qu'en art, plus on laisse d'espace, de liberté au spectateur, plus on lui permet de créer lui-même l'œuvre, et par conséquent, plus cette œuvre devient fascinante. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité, nous sommes toujours les Muses s'amusent. Nous continuons notre grand cycle sur le Louvre et nous parlons ce soir des œuvres présentes dans la salle des États. Nous étions devant le très bel homme aux gants de Titien. Eh bien, un peu à gauche, il y a un autre Titien, le couronnement d'épines. Là, il s'agit d'un épisode dans le Nouveau Testament. Avant la crucifixion de Jésus à Jérusalem, la puissance occupante, Rome, veut montrer aux éventuels indépendantistes hébreux qu'elle ne va pas se laisser faire, parce que pour Rome, Jésus, c'est un indépendantiste hébreu. Il est très amusant de constater que les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas compris qu'avec cette histoire, ils se tiraient une balle dans le pied. En effet, roi des Juifs ou pas roi des Juifs, les Romains n'auraient jamais exécuté un homme capable de ressusciter les morts. Au contraire, un tel homme aurait été envoyé le plus vite possible à Rome, histoire de garantir la vie éternelle à l'empereur. Donc si les Romains se contentent d'exécuter un indépendantiste hébreu, c'est qu'ils ne voient pas en lui un ressusciteur de mort. C'est donc bien que s'il y a eu éventuellement un bonhomme appelé Jésus, crucifié par les Romains, il n'était qu'un indépendantiste hébreu ou un fou, ou mieux encore, les deux. Toujours est-il que, pour moquer sa prétention à ouvrir le royaume des cieux et à justifier les prophéties de l'Ancien Testament, les Romains couronnèrent leur condamné d'une couronne d'épines, une couronne de ronces. Rappelons que les empereurs byzantins prétendaient posséder la couronne d'épines, qu'ils ont réussi à la vendre à Venise pour une somme colossale, et que les Vénitiens, pas terriblement mystiques, se sont empressés de revendre la couronne d'épines au roi de France Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, qui l'a achetée parce que lui, il y croyait. Saint-Louis a construit la Sainte-Chapelle pour abriter cette relique. L'objet tangible, évidemment soit fabriqué par les Byzantins, soit par un intelligent escroc qui avait roulé les Byzantins, fut détruit, comme presque toutes les reliques en France, lors de la Révolution. Mais, à la Restauration, un prêtre demanda audience à Louis XVIII et lui jura que lorsque les révolutionnaires arrivèrent dans la Sainte-Chapelle et s'emparèrent de la couronne d'épines, un brin de ronce chuta. Et Noël, le prêtre réussit à le dérober et Kazam, le voilà, votre majesté. Alors, on se dit que puisque Dieu n'avait pas voulu permettre la destruction totale d'une si auguste relique, peut-être que cette relique avait survécu. On lança donc une grande recherche, et qui l'eût cru, on la retrouva aux archives. Ben voyons. Incidemment, le cercle de roseaux très sec qui tient lieu de couronne d'épines quand les crédules viennent l'embrasser tous les vendredis saints, ce cercle est d'un très, très, très grand diamètre. Mais bon, quand on est Dieu, on a le droit d'avoir la grosse tête. Revenons à notre tableau du Titien. Il est bourré de références visuelles. La position même du Christ est très facile à identifier, puisqu'elle est directement copiée de celle du célèbre groupe antique le Lacaon, où le monsieur du même nom est attaqué avec ses deux fils par des serpents. Le buste du bourreau que nous voyons à gauche du Christ est inspiré, lui, du buste du Belvédère, autre sculpture antique célèbre. On note l'inscription Tiberius et le buste de Tibère en haut. Mais juste au-dessus de la tête du Christ, les trois cannes avec lesquelles les bourreaux serrent la couronne d'épines sur le crâne du Christ, ces trois cannes forment un triangle. Un triangle pile poil de la forme des triangles qui sont censés rappeler la Trinité, donc les trois personnes en un seul Dieu. Mais si, le christianisme est un monothéisme. Notons le paradoxe entre la violence de cette torture et la grande beauté du tableau, avec ses merveilleuses couleurs qui tirent un éclat tout particulier de leur contraste avec le fond très sombre. Continuons dans la même direction et nous tombons sur un autre tableau des pèlerins d'Emmaüs, mais cette fois du Titien, pas de Véronèse. Ce tableau-là a beaucoup plus de charme que celui de Véronèse. D'abord parce qu'il n'est pas le portrait d'une famille vaniteuse et hypocrite, mais une représentation d'une scène qui aurait presque pu exister. La pose de Jésus et celle du pèlerin surpris, celui sur notre gauche, sont conventionnelles et donc mortes. Mais le pèlerin de droite, lui, bouge d'une manière stupéfiante de vérité. Une vérité tout aussi présente dans son physique, certes banal, mais extrêmement convaincant. De même, le geste de l'aubergiste, aux manières à la fois respectueuses et populaires, pourrait être accompli par n'importe quel patron de bistrot de 2026. Idem pour le gamin apportant le plat, et quel charme enfin, dans l'attitude du chien sous la table. Continuons toujours vers la gauche, et là, nous sommes devant un tableau indirectement amusant. D'ailleurs, le Louvre, sachant qu'en France rien n'est à l'abri des railleries, n'a pas osé donner à ce tableau le titre qu'il porte en anglais et en italien, « La Vierge au lapin ». Ça s'explique. « La Vierge au chaud lapin, la Vierge au chaud lapin, la Vierge aux lapines », on imagine aisément ce qu'un groupe de mâles un peu éméchés ferait de ce titre. Donc, officiellement, il s'agit de la Vierge à l'enfant avec Sainte Catherine et un berger, de Titien toujours. La parenté, la beauté des couleurs rend cette parenté évidente. Admirez la magnifique couleur du tissu au-dessus de la jupe de Sainte Catherine, cette couleur dont on ne sait pas très bien s'il faut l'appeler orangé, ambré, vieux bronze, superbe en tout cas. Pourquoi un lapin ? Parce qu'on voit bien que la Vierge tient un lapin. Plus exactement, elle l'immobilise en posant sa main ouverte sur le dos du lapin. Tout le monde sait qu'un lapin, ça court vite. Mais tout le monde sait aussi qu'un lapin, ça fornique encore plus vite. Il tombe alors sous le sens que la Vierge soit montrée en train d'imposer sa chasteté à un animal symbole de luxure. On peut se demander pourquoi le christianisme ne pense qu'au sexe, de préférence sadomasochiste. Hein, Jésus, il est quasiment nu sur un instrument de torture. Mais il est né d'une femme dont on nous jure qu'elle est restée vierge, probablement parce que Dieu le Père, écolo avant l'heure, l'avait dotée d'un hymen recyclable. Bon, souvenons-nous que le créateur le plus probable du christianisme fut saint Paul, et que saint Paul a écrit explicitement qu'il ne brûle pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de désir sexuel. Et il implique que c'est par nature qu'il n'en a aucun mérite. Alors, il est logique qu'une personne asexuelle, mais qui partage des tabous humains envers les orifices excrémentiels, il est logique que cette personne alors pense que la vulve est un lieu sale, puisque c'est de la vulve que part l'urine. Et il est logique que cette personne est asexuelle, préférerait que l'être humain le plus pur qui soit, puisqu'il est aussi Dieu, soit né sans l'intervention d'un acte sexuel, puisque l'acte sexuel, c'est la conjonction de deux orifices urinaires. Ce dégoût de cette personne asexuelle, autrice, auteur plus exactement, du christianisme, pourrait expliquer la présence de tous les tabous antisexuels dans le christianisme. Mais ça n'explique pas entièrement le succès du christianisme. Le christianisme a-t-il eu du succès en dépit de sa haine obsessionnelle du sexe? Ou a-t-il eu du succès à cause de sa haine obsessionnelle du sexe? J'aurais tendance à penser que c'est à cause et non pas en dépit. Parce que intégralement toutes les cultures humaines ont des tabous excrémentiels d'une part, et d'autre part presque toutes ont un tabou d'inceste sous une forme ou sous une autre, mais dans toutes les cultures un tabou d'inceste, l'inceste le plus brutalement interdit, et d'une interdiction en règle générale respectée dans la réalité, c'est celui entre mère et fils. Or Freud nous a appris que le désir d'inceste est, sinon universel, du moins extrêmement fréquent. La sensation de culpabilité qui en résulte trouve donc souvent une issue, un soulagement, dans des mythes bizarres, comme l'est le mythe de la Vierge Marie. Et là, dans ce tableau, Titien fait preuve d'une rare franchise. Il nous montre bien une Vierge stoppant un lapin, donc une Vierge stoppant le désir sexuel. Notez, au-dessus de la Vierge, peinte par Titien, sa copie quasi parfaite, peinte par Édouard Manet. Presque tous les grands peintres occidentaux ou asiatiques copient pendant leur jeunesse, pendant leur phase d'apprentissage, les œuvres de leurs prédécesseurs. De nos jours, ça semble un peu étonnant, étant donné notre culte, pas forcément sain, de l'originalité à tout prix. Mais en réalité, pour comprendre l'utilité de la chose, il suffit de se souvenir que les musiciens, eux aussi, copient. En musique, ça s'appelle interpréter une partition. Tous les grands compositeurs savent jouer d'au moins un et en général plusieurs instruments. Et pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut en général jouer des compositions déjà existantes, donc celles des autres compositeurs. Et il en va en un sens de même pour les écrivains. Quel écrivain n'a pas d'abord lu des livres, des centaines de livres, avant d'écrire? Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous sommes les Muses s'amusent et nous continuons notre grand cycle sur le Louvre en parlant ce soir des œuvres présentes dans la salle des États. En 2026, le Louvre a disposé les peintures de telle façon qu'il faut à présent que vous vous retourniez, puisque vous étiez en train de regarder la Vierge au lapin. Donc vous allez vous retourner, vous allez regarder le grand mur sur lequel il y a la Joconde, et vous ne regardez pas du côté où il y a la Joconde, vous regardez sur l'autre face du mur, et le premier tableau que vous allez y voir, c'est encore un Titien, et c'est un portrait de François Ier. Or, dès que l'on y réfléchit un instant, on voit bien qu'il y a un problème. Titien est un peintre vénitien qui n'a jamais quitté l'Italie et dont le voyage le plus lointain ne l'a amené qu'à Rome. François Ier, lui, n'est jamais allé ni à Venise ni à Rome. Bref, Titien n'a jamais vu François Ier en personne. Mais coup de chance, le Louvre nous informe que, ouvrez les guillemets, la pose de profil rappelle les représentations d'empereurs romains mais s'explique surtout par le fait que Titien s'inspira d'une médaille gravé par Benvenuto Cellini à Fontainebleau en 1537, à défaut de pouvoir observer le modèle. Cet archaïsme n'empêche pas l'artiste d'insuffler à l'expression une énergie pleine de grandeur et de bonhomie et de créer ainsi une des images les plus célèbres du souverain. Fermez les guillemets. François Ier, de fait, avait une excellente renommée qui lui a d'ailleurs été conservée, ce qui explique que Titien ait donné à ce profil cet heureux sourire. Une expression que l'on ne donne presque jamais à un roi. Un roi, du moins à l'époque où les rois avaient le pouvoir, devait faire peur, devait inspirer obéissance et respect plutôt que sympathie. François Ier et Henri IV sont deux exceptions qui confirment la règle, et encore, faut-il se souvenir qu'Henri IV n'a pas vraiment été populaire de son vivant, et que les images qui le montrent souriant sont, en règle générale, postérieures à son règne. Essayez de trouver un sourire chaleureux sur un portrait de Louis XIV, bonne chance. J'espère ne pas me tromper en affirmant que le premier portrait royal français qui montre un sourire qui semble authentique est l'un des portraits de Louis XVI, ce qui d'ailleurs n'a pas vraiment porté chance à Louis XVI. Déplacez-vous encore un peu vers la droite et vous pouvez admirer l'un des plus beaux tableaux jamais peints à propos d'un cadavre. Le transport du Christ vers le tombeau, appelé aussi la mise au tombeau, toujours du Titien. Titien reprend ici la composition d'un tableau plus ancien sur le même thème, celui de Raphaël. Une composition magnifique, mais dans le tableau de Raphaël, les visages sont pompeux et n'emportent absolument pas la conviction. La composition de Titien n'est pas moins belle, mais ses personnages ont bien plus de naturel. Comme d'habitude chez Titien, les couleurs et la succession des couleurs sont somptueuses. On notera l'astuce qui a consisté à mettre le visage du Christ mort dans l'ombre. Les visages des êtres humains sont ce qui intéresse le plus les êtres humains, puisque notre survie même dépend des émotions d'autrui, émotions que nous déchiffrons principalement sur le visage d'autrui. Mais donc, en ne nous donnant pas le visage du Christ, Titien nous le laisse. Imaginez, et comme je l'ai déjà dit plus haut, les œuvres qui nous retiennent le plus sont celles qui, apparemment incomplètes, nous laissent libres d'imaginer ce qui leur manque. Et puisque nous avons parlé de la couronne d'épines, remarquez l'autre astuce du Titien, cette couronne tombée que l'on voit sous l'homme vêtu de vert. Continuez vers votre droite, arrivez de l'autre côté de la salle des États, et vous verrez pour la deuxième fois dans cette salle un monsieur en train de caresser tranquillement le sein d'une dame. Là, il s'agit d'un tableau, toujours du Titien, appelé « Allégorie conjugale ». On y voit, curieusement, un mâle en armure, oui, en armure, et une armure dont Titien peint les reflets avec soin. Mais ce mâle, excusez-moi du terme, pelote allègrement le sein de la très belle femme assise. Et devant cette femme, en bas, un petit cupidon, avec un énorme faisceau de flèches. Une autre femme rend clairement hommage à la première femme, qui tient une boule de cristal, dans laquelle elle regarde. Et derrière, dans l'ombre, un jeune homme élève les bras et tient un panier de fruits. Les fruits du mariage. Une étrange allégorie. Il se pourrait bien que l'homme en armure soit le dieu Mars, le dieu de la guerre, et que la femme dont il rend si clair qu'elle est la sienne soit Vénus, la déesse de l'amour, mère de Cupidon. Comme on sait, Vénus et Mars étaient néanmoins seulement amants, puisque Vulcain avait obtenu Vénus en mariage, tout à fait contre le gré de Vénus. Maintenant, vous allez remonter le mur dans la direction des noces de Cana, et un petit peu à gauche de l'allégorie conjugale, un très beau tableau avec à nouveau une Vénus, qui s'appelle Vénus, Mars et l'amour, et il est d'un monsieur appelé Lambert Sustris. Lambert Sustris, un nom typiquement hollandais ou flamand dans une salle consacrée, hormis la Joconde, à la peinture vénitienne. Oui, Sustris est bien né à Amsterdam, mais il a vécu et travaillé à Venise, entre autres, pour vous l'avez deviné, le Titien. Cela dit, quand on regarde cette très belle Vénus, on s'aperçoit que son corps n'est pas très vraisemblable. Le visage, oui, mais des jambes aussi incroyablement longues. Idem pour les bras, très longs, idem pour le torse, très très long. Elle fait irrésistiblement penser aux nymphes sculptées à Fontainebleau et aux tableaux et aux sculptures représentant Diane de Poitiers. Ces femmes, tout en longueur, furent très à la mode avant que Rubens ne rende ronde la suprématie. Cette obsession de la longueur est également infligée au pauvre Cupidon, représenté en bébé géant, trois fois plus grand qu'un bébé normal. Et remarquez l'humour dont fait preuve Sustris en nous montrant Mars qui se dépêche de rentrer à la maison exactement comme un mari épuisé qui rêve tout de même de se faire câliner à son retour. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans dieu, sans maître et sans publicité. C'était Les Muses s'amusent et nous continuons donc notre grand cycle sur le Louvre. Ce soir, nous avons parlé des œuvres dans la salle des États. Je vous retrouve tous les premiers lundis du mois à 21h pour Les Muses s'amusent. Et tous les troisièmes lundis du mois également à 21h pour le Proton se rebiffe. Je vous présente toutes mes excuses pour les deux Protons se rebiffe manqués en mai et en juin, mais j'étais à l'étranger et ça a coincé. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Les Muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans dieu, ni maître, ni publicité.
par où, comment, par qui? Commence les parkings de la morale acquis. Profite le prix du silence de l'or dans les coffres qui dort. L'argent est inodore, mais qu'est-ce qui sent si fort? Malin marchand de schnouf, grand king de l'esbrouf. Les agents blanchissants de poudre helvétique sur des matelas d'argent s'envolent, c'est magique. Gouvernemental, gouvernant le mental, la télé vide ceux qui vivent par ses yeux. Dealer de poudre aux yeux, laveur de cerveau, le monde est propre et beau. Certifié conforme, conforme faut pacifier pour entrer dans la norme. Pourquoi, comment, pour qui marchent à quatre pattes les moutons, les zombies, tous ceux que l'audit mate. Commence les parkings de la morale acquis. Profite le cri, étouffé à l'asile. Des îles ou des ailes, morale imbécile. Leur a coupé les ailes, chimique camisole. Silence occipital, la folie à s'étôle. Dans le désert mental, y pensez-vous aux fous? Ceux qu'on n'enferme pas et qui font de vous des pions, des soldats. Les mêmes qui parfois mettent en boîte les lois, qui parquent les paquis, matent les insoumis et viennent à 20h dire la main sur le cœur. Si t'as le mal du pays, bienvenue dans nos charters.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Au Brésil, raconte-moi. Au Brésil, je ne connais de toi que ces mots-là.
Ça ne va. Et tout le monde patine pour les bonnes femmes. Au Sanova,
va, tu comprends que l'on trio camara.
Mais, quand on parle de toi,
mais,
on ne dit que samba.
Mais
il n'y a pas que ça.
Mais,
si, que vive au chora. A Paris c'est chega, c'est dans douche ou ma.
Pardonne-lui, il dit n'importe quoi. Pardonne-lui, sa guitare et ses doigts. Pardonne-lui, même s'il n'a pas la voix. Pardonne-lui, mais il n'aime que ça.
Au Brésil, nous sommes indiscrets, mais redis-nous.
Bossa Nova et tout le popatempo, elle est bonne femme. Bossa Nova,
Nova, Chico Borquero, Trio Camara.
Mais quand on parle de toi, on ne dit que samba, mais il n'y a pas que ça. Si que vive por chora, a Paris se chega, siempre en tu show y ma.
Les bisons dans les grandes plaines, vers l'est dans des wagons, expédier les pauvres. On avait laissé aux vautours leur chair rouge et blême, les Indiens affamés leur en disputaient des lambeaux. Chacun sa croix sur la poitrine, en or, en bois, en argent, chacun selon ses vœux. On avait gravé sur les crosses de nos carabines le nom d'un roi, le nom d'un saint, le nom d'un dieu.
Entrez dans vos réserves,
nous vous apporterons la civilisation.
La civilisation.
Nous avons quadrillé le continent de routes et de lignes, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut. Les trains, les camions, les 4x4, les motos et les avions de ligne, les Indiens pour nous regarder devaient se casser le dos. Bâti des églises, des temples et des synagogues pour honorer notre Dieu qui nous rend si forts. Célébrer les 10 lois du décalogue, partager le pain, partager le vin sur des millions de morts.
Restez
dans vos réserves.
Nous vous apporterons.
La civilisation.
La civilisation. La civilisation. La civilisation. La civilisation. La civilisation. La civilisation,
quand nous aurons enfin tué la dernière baleine, enfin pêché, Le dernier poisson, nous emporterons notre or sur une planète lointaine. Et nous, les survivants, les conquérants, nous vous dirons: restez dans vos réserves.
Restez dans vos réserves.
Et nous refonderons.
Et nous refonderons.
La civilisation.
La civilisation.
Restez dans vos réserves.
Restez dans vos réserves.
Et nous refonderons.
Et nous refonderons.
La civilisation.
La civilisation.
Cette nuit pyromane, tu mises en un éclair mon lit à feu et à sang. En voulant l'arroser, j'attisais les rotomanes. Mon priapisme cendre réclamait le 900. Quand ta bouche en fusion, fuyant la crampe fatale, réclama les pompiers pour souffler ce feu au cul. Je courus dans la rue, sachant qu'à l'heure spatiale, téléphoner au sol reste un exploit de cocu. Facile de trouver un escalier sans marche qu'une cabine de téléphone en état de marche. Dans le premier abri où j'atterris pêle-mêle, un œuf en plexiglas coincé sous l'escalator. Trois supporters anglais avaient chié leur pêle-aile et s'essuyaient le cul en arrachant les pages d'or. C'est plus facile de trouver un escalier sans marche, une crise sans crash, une prairie sans vache, qu'une cabine de téléphone en état de marche. La seconde cabine avait la grâce erratique d'un arrêt d'autocar entre Vielsalm et Saint-Pont. Ça puait la morue sans trancher le point critique. Le carnet sentait-il le dégueulis ou les troncs? C'est plus facile de trouver un escalier sans marche, une crise sans crash, une prairie sans vache, un dimanche sans drache, qu'une cabine ou téléphone en état de marche. Le troisième appareil, un flipper hémiplégique, avala sous les coups vorace comme un vautour. 15 fois le profil du dernier roi de Belgique, mais rien, pas un appel, pas une pièce en retour. C'est plus facile de trouver un escalier sans marche, une crise sans crash, une prairie sans vache, un dimanche sans drache, un Liban sans otage, qu'une cabine de téléphone en état de marche. Au 40e essai, j'ai cru trouver la riposte grâce à l'autoradio d'un taximène complaisant. Mais les pompiers déjà avaient déserté le poste et conduit l'autopompe à ton cul incandescent. Quand j'atterris chez moi au volant d'un Canadair, j'ai su que la bataille était à jamais perdue. Devant la grande échelle au pied du feu grabataire, tout le quartier brûlait de connaître ta vertu. C'est facile de trouver un escalier sans marche, une crise sans crash, une prairie sans vache, un dimanche sans drache, un Liban sans otage, un Dupont sans moustache, qu'une cabine de téléphone en état de marche.
C'est pas parce que ma pauvre vie est triste, sordide et solitaire, sinistre, lamentable d'ennui, qu'elle va se passer de commentaires. J'ai plus quoi faire, je ne comprends plus. J'ai beau rester pendant des jours toute seule dans le froid et dans la rue, tout ce que je provoque, c'est des détours. Je suis en bois, mais pas de marbre. Et je me laisse prendre, je suis trop bonne. C'est grâce à moi qu'on grimpe à l'arbre, mais c'est sans moi qu'on croque la pomme. J'ai de l'amour depuis des siècles, mais personne ne retient mon nom. De Roméo, moi ou Juliette, je suis même moins connue que le bal. Grimpe dessus sans pourtant me trouver belle. c'est le drame méconnu. De la vie d'une échelle. Paraît en plus que je porte malheur. Personne dessous, tout le monde dessus. On baliverne sur mon honneur. J'ai moins de vertu qu'une fille perdue. Et je me surprends certains matins à vouloir être quelle déchéance. Faire à cheval ou patte de lapin. Mais n'importe quoi, qui porterait chance. Tiens bon le pinceau, j'enlève l'échelle. C'est fou ce que les hommes sont ingrats. Je vis la honte perpétuelle. Même les râteaux se foutent de moi. Le grimpe dessus sans pourtant me trouver belle. Le drame méconnu de la vie d'une échelle. Vous en trouverez, tiens, des frangines solides et qui ne posent pas de questions. Des fidèles comme une vieille copine. Mon créneau, c'est la dépression. Mais là, y a pas, j'ai du succès. Je garderai à fond chez les tordus. C'est triste à dire, mon seul ticket, c'est l'allée simple du pendu. Alors, frustré comme un vieux moine, je déblatère soir et matin sur l'honneur des pots de bananes. Faut bien se venger sur quelqu'un, car toujours on me grimpera dessus. Sans pourtant me trouver belle, c'est un drame méconnu. C'est la vie d'une échelle.
Allô, allô. Ah. Non, moi, j'entends pas. Oui, il y a un signal, c'est bon. Ok, tu m'entends, c'est bon. Et si tu parles ? Essaie de parler.
Ok, vas-y. Jaune, ah, voilà.
Super, parfait.
Super. On va essayer. Paris-Bordeaux-Le Mans.
On fait,
ouais, on fait un tour de
on fait un tour de table, oui.
Ouais. Je passe au vert.
Ah, ok.
1, 2, 3, 4.
Ça existe ?
C'est pas un faux. 1, 2,
3,
4.
Parfait.
Ah, ouais, nickel.
Parfait.
Ok. On passe au.
Au noir.
Le gris, c'est le noir, en fait.
Le noir, c'est gris, ok.
Ouais. Oh, attends, une seconde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça y est.
Parfait.
C'est bon. Nickel. Je passe à l'orange. Je sais pas si on s'en servira d'ailleurs de l'orange, mais au cas où. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pas génial, hein.
Ouais, super. Y a pas trop de gains, y a pas trop de gains, mais je t'entends quand même.
Moi, je m'entends pas très bien là-dedans. Et le bleu. 1, 2, 3, 4. Oh bah, il est nickel, le bleu.
Ouais, super.
Très bien. En plus, là, il est bien réglé. Pile poil pour le timbre de voix que j'ai.
Et enfin, le rouge, hein, c'est ça.
Et le rouge, c'est celui d'Estelle, ouais. 1, 2, 3, 4. Paris-Bordeaux-Le Mans, il est bien aussi, le rouge.
Parfait.
Nickel. Voilà.
Les muter, ouais. Et pour le mon contrôle, il est où?
Microtex, Microtex, c'est ça.
Ouais. Et mon contrôle room.
Attends, déjà t'as ton son là.
Ah ah ah. C'était où?
Tu t'entends?
Ah ouais. Parfait.
Super.
L'ordinateur, c'est ça. Il marche normalement.
Y a quoi qui défile là?
Bah là, il n'y a rien.
Ah bon?
C'est bizarre.
Y a plus rien? C'est pas normal, ça.
Oui, je trouve que c'est un peu bizarre.
Il a fini l'émission d'avant ?
C'était Audacity, si je me rappelle bien.
Ah, il s'est arrêté ?
Oui, il n'y a plus rien.
Putain, c'est pas normal.
C'est pas normal, ça.
Non, c'est pas normal. Surtout que normalement, il y a un détecteur. T'as coupé les PFL partout ?
J'ai pas touché ici. C'était là, Audacity, normalement.
D'accord. Donc,
t'as mis les retours. Les retours sont où d'ailleurs, les retours externes. C'est,
ça c'est de l'autre côté et ça c'est chez nous.
D'accord, ça c'est ici.
C'est les enceintes là.
Bah non, y a rien.
Ouais, y a rien du tout. Bon.
Ok, si je teste ça, on va tester un morceau là. Je sais pas si c'est en direct. Hein,
ouais, c'est ça le problème. Et normalement, il devrait y avoir.
Voilà, y a ton signal.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Continuons donc notre cycle sur le Louvre, et dans l'émission précédente, nous en étions à la Joconde. Et la Joconde, elle se trouve dans la salle des États. Oublions ce nom si malsonnant aux oreilles anarchistes, et retournons-nous. En face de la Joconde, l'un des plus grands tableaux du Louvre, 67 mètres carrés de toile. Un cadre de 6 mètres 77 sur 9 mètres 94. Et, pour nous consoler de ce vilain nom de salle des États, un tableau délicieusement païen. Bon, j'exagère un peu avec le mot « païen », car ce gigantesque tableau est censé représenter l'épisode des noces de Cana, c'est-à-dire le premier miracle du bonhomme Jésus. Il a 33 ans, on l'a invité avec sa maman, Madame Marie, à un banquet de noces, mais manque de chance, tout d'un coup, il n'y a plus de vin. Ce que Maman Marie signale à son fiston en lui proposant de faire un petit miracle. Jésus renacle d'abord, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et hop, l'eau se change en vin. Le tableau montre, entre autres choses, un majordome considérant avec stupéfaction un verre contenant un liquide d'un rouge tout à fait vineux. Cette fois-ci, Jésus ne nous fait pas encore le coup du cannibalisme mystique « Buvez car ceci est mon sang », mais le cœur y est. Vous m'objecterez donc que de qualifier ce tableau de « païen », c'est pousser le bouchon, pardon du jeu de mots facile, un peu loin. Oui, mais il suffit d'un seul regard pour constater que les moines bénédictins, qui ont commandé ce tableau à Paolo Cagliari di Véronèse parce qu'il est né à Vérone, pour l'énorme réfectoire de l'église, de leur église de San Giorgio Maggiore, une église dont les plans ont été dessinés par Palladio, ces moines bénédictins, disais-je, ne se préoccupaient pas beaucoup de mysticisme, et encore moins d'ascétisme. À en croire le pinceau de Véronèse, le banquet a lieu non pas dans une tente de bédouins, mais dans un fabuleux temple grec ou romain, grand ouvert sur le ciel, et on aperçoit au fond un campanile des plus italiens. Quant aux invités, ils portent des costumes d'une splendeur tout à fait vénitienne. Oh, bien sûr, il a fallu y mettre quelques allusions à la mythologie chrétienne. Par conséquent, pile au-dessus de Jésus, que Véronèse a bien dû mettre à l'exact centre de la composition, un cuisinier taille à grands coups de couteau dans une longue pièce de viande, ce qui devrait vous faire vous souvenir que le mythe chrétien veut que Jésus ait été crucifié. Un peu à droite de ce cuisinier, sortant d'entre deux colonnes, un serviteur porte une espèce de brancard sur lequel probablement se trouvent des plats, mais qui fait penser à ceux avec lesquels on évacue les cadavres des soldats sur les champs de bataille. Et les têtes de Madame Marie et de Fiston Jésus portent bien les auréoles de rigueur, mais absolument rien d'autre ne parle de christianisme. Tout, en revanche, parle de ripaille et de beuverie. Et même complètement à gauche, un personnage dont on affirme qu'il ressemble à François Ier, roi de France, penche son regard vers les seins de sa blonde voisine. Un peu plus haut, le barbu a l'air pas content, et tout simplement, enfin il serait tout simplement Soliman le Magnifique, le sultan de l'Empire Ottoman. Pas très chrétien, n'est-ce pas? Et puis, regardez sur la partie droite du tableau. Voyez-vous le dos de ce convive en grand manteau bleu? 40 cm au-dessus de lui, vous apercevez ce drôle de bonhomme avec juste un peu de vêtements en noir ennuyeux. C'est le nouveau prieur du monastère. Car le prieur qui avait passé commande à Véronèse et qui lui avait promis 324 ducats, une barrique de vin et les repas gratuits au réfectoire, ce prieur-là, il est mort. Alors, pour s'assurer les bonnes grâces de son successeur, Véronèse peint son portrait sur une autre toile, découpe le visage et le colle, on dit le maroufle, sur la grande toile. Répétons-le, il faut ce qu'il faut. Le musicien en blanc a de très fortes chances d'être un autoportrait de Véronèse. Le barbu roux, debout, en tenue verte, ressemble comme deux gouttes de Chianti au poète pornographe Larétin. Et l'autre musicien en vêtements rouges fait nettement penser à Titien. Nous autres guides, nous demandons toujours à nos clients de compter le nombre de chiens présents dans le tableau. Une question piège, évidemment, dont je ne vous donnerai évidemment pas la réponse, mais sachez simplement qu'en 36 ans de carrière de guide à Paris, je n'ai entendu cette réponse que trois fois.
Bonjour, c'est parfait, merci, bon retour. Chacun fait un test avec son micro, s'il vous plaît.
Yom.
Vous n'avez pas de casque, monsieur?
Moi, j'ai un casque. Surnommée la paillonnette.
C'est bon. Est-ce que quelqu'un a un casque? Il y a un casque, t'as pas de casque?
Moi, j'ai pas de casque, mais c'est pas grave.
On est sur le
R. En envahissant l'Italie.
Moi, je m'entends pas. Ah, si.
C'est bon?
Ouais. Eva,
tu t'entends?
Ouais, moi, je m'entends.
Très bien, parfait. Tu m'entends, Seb?
Ouais, je t'entends.
Mais j'ai l'impression que c'est pas assez fort le son dans les.
Le son de ce casque, ce casque n'est pas le casque le plus puissant du monde.
C'est le 15.
Il faut que tu regardes pour checker. Est-ce qu'on peut monter le 15, s'il vous plaît?
Moi,
alors,
bah ouais, ça va.
On va mettre un système qui permet aux gens, soit qui s'entendent pas assez au casque, soit qui n'ont pas de casque, de s'entendre dans le studio. Je sais que c'est pas, mais bon, il y a pas mal d'émissions qui sont comme ça. Ok. On est parti comme ça. Je sais que vous êtes dédié à la Tola de son que en casque, non, mais on peut aussi.
Allô, allô.
Oui, alors.
Essaye.
Ouais. 1, 2, 3, 4. Vas-y.
Yo.
J'ai une question pour Joël de Lucie. Lucie demande Beautiful. Joël, tu as reçu les titres. Tu as les titres. Tu sais que je t'entends pas. En fait.
J'ai bien reçu les titres et la note de synthèse, notamment de Lucie.
La note de synthèse.
Elle était très facultée.
J'ai connu moins anxieuse, Lucie.
Vraiment.
Non,
j'étais trouvé plus encore vraiment organisé, mais vraiment.
Ouais.
Non, mais t'inquiète,
je deviens professionnel. Mais du coup, il passera le titre ou pas?
Mais non, t'es puni. Bien sûr que tu passes le titre, évidemment.
Okay. Non,
on passera la note de synthèse et le mémoire.
Joël, c'est passé ton titre.
Est-ce que tu as lu la note de synthèse?
Il est en 15.
Comment t'as fait le clip?
Est-ce que par contre, moi, je peux me mettre comme ça une oreille détachée ou pas?
Je sais pas, attends, je vais demander à mon commissaire. Oui, est-ce que Lucie Chem, attention, j'ai pas de réponse. Non, c'est interdit. Il y a la.
Non, mais j'entends bien.
Non, mais évidemment que tu peux.
Okay.
Messieurs, dames, mesdames, messieurs, il reste 2 minutes. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
Ouais, on a rien.
Il aime s'auto-stresser. Laurent est là pour.
Mais il faut que je sois bien.
Ah bah non, bah tu peux pas te demander.
Ça fait longtemps que
c'est quoi, est-ce que tu m'entends?
C'est
à
moi, c'est tranquille.
Moi j'ai pas entendu.
Je vais pas prendre le casque.
Moi, si je vous entends, ça me
fait. Toi, t'as pas de casque, chien ?
Non, alors, je parle, parle un
peu. Tu m'entends ?
Elle pourra parler si elle
veut. Ouais, mais super faible.
Mais tu t'entends, tu t'entendras de toute façon.
De toute façon,
oui, j'entendrai.
On s'entend.
Mais là, on entendra dans le haut. C'est juste que je veux qu'il y ait un maximum de gens qui aient un casque.
Est-ce que tu m'entends maintenant ?
Pour le confort et pour le choix.
Vas-y.
D'écouter
Vas-y.
En haut.
J'ai augmenté un peu le gain. J'ai augmenté le gain.
Il est 29.
Et là ?
Est-ce qu'on peut démarrer sérieusement l'émission, s'il vous plaît ?
Maintenant ? C'est bon.
Là, ça y est, nickel.
Ah, je vois lequel c'est.
Oh, okay. Par contre,
les Larsen,
parce que là, il est un peu fort ton casque.
Ah, ok. Ah oui, effectivement.
C'est la première fois que j'entends une Larsen à Radio Libertaire.
Parce qu'il est trop bon.
C'est expérimental, hein.
Ok. Ok.
Quand j'étais monté,
j'ai peur. Mais là, j'entends plus rien. Bon.
Mais non.
Après, au pire, tu disais on entend.
Oui, on entend. Les amis, on est sur le son ambiant. Xavier, à la rigueur, vous échangez les casques. Non mais t'inquiète pas. Non. Mais non, t'inquiète pas, tout est bon. On va commencer comme ça, on se fait. Non. Et je vais dire à Fred, par exemple, quand je vais faire l'annonce de début d'émission. Putain, ça y est.
Bienvenue dans Angésine sur Radio Liberté.
C'est toi, Xavier, le plus proche. Tu peux dire à Fred que je vais faire un déroulé d'émission. Et juste qu'ils disent bonjour dans le micro quand je vais dire on a les amis Scarface. Non, Fred. Xavier, tu vas dehors. Voilà, tu dis à Fred de se tenir très près, de venir. Fred, avant de t'installer, juste tu pourras dire dans le micro, ouais, salut. Comme ça, parce que en fait, non, là, je vais annoncer le programme. Toi, dire juste bonjour, comment ça va? Et vous êtes détendu? On va vous entendre dans quelques minutes. Ne soyez pas stressé, tout va bien. Est-ce qu'on peut commencer? Et par contre, s'il vous plaît, n'appuyez pas vos mains sur la table. Par pitié. Ne serait-ce que parce que j'ai une bière qui aura, mais c'est surtout parce que la table, elle est très fragile. Merci. Oh, il y a un chewing-gum en bas. Comme à l'école. Non, mais je mets mon main, il y a un chewing-gum. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme consigne? Rien. Si, mettez-vous très près du micro comme ça. Voilà.
Radio Libertaire 89.4. Ouais. À toi, Seb.
Bonsoir, les amis. Bienvenue dans l'émission, le nouvel épisode d'Indésine. Vous l'attendez? Il est là, ce nouvel épisode sur Radio Libertaire 89.4. Indésine sur la Radio Libertaire. Vous savez que c'est la radio de la Fédération anarchiste. N'hésitez pas à venir nous voir, à appeler, à nous envoyer des messages sur le site de Radio Libertaire.org. Radio Libertaire, une des premières radios libres, est avec vous ce soir pour vous présenter un nouvel épisode qui va vous emmener très 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 loin dans le style musical, très loin dans l'émotion. On aura déjà sur le plateau Lucie Shame, vous l'avez déjà entendu. Lucie, bonsoir. Bonsoir, tu me présentes ton nouveau clip, parce que maintenant tu fais des clips.
Oui.
Nouveau titre, il y a de la production. T'es pas venue toute seule, Lucie?
Non, je suis venue avec Miali.
Bonsoir.
Bonsoir, Miali. Bienvenue, tu étais. C'est pareil, hein, on se connaît, tu étais déjà là. Et voilà, donc là, c'est de la production, parce qu'il y a eu du concert pas mal récemment. Et là, maintenant, ouais. Ça travaille sur la production et sur le clip, sur les clips.
Ouais, sur les sorties, ça y est, tout a été produit. Maintenant, ça va sortir au fur et à mesure. Enfin, il y a eu deux clips, deux singles et clips, et il y aura un album en novembre si tout va bien.
En novembre,
voilà. Et deux autres singles.
Tu viendras présenter officiellement cet album. Oui. Là, on va déjà apercevoir le début de ton travail. Juste après, il y aura un groupe culte, un des meilleurs groupes, et si on peut dire le meilleur groupe live de ska français, les Scarface. Bonsoir.
Moi, j'aime bien être présenté comme ça. Bonsoir.
C'est Fred que vous entendez. Bonsoir, Fred. Bonsoir et bienvenue, en tout cas bonsoir à toi aussi.
Salut.
Et bienvenue à Radio Libertaire. Et donc on me présentera donc le groupe qui a été créé en 1991, en avril 91.
Ouais.
Et voilà, qui est actif sur la scène, qui qui a pas tergiversé, puisque 6 mois après ses débuts, il était déjà sur scène, il avait déjà sorti un 45 tours, c'était voilà. Ah,
si on va pas le faire maintenant, c'est pas nous qui l'a fait en premier, je l'en fais tout à l'heure, mais en vrai, 3 mois après, on parlait tout à l'heure, on était au Gibus, mais on sortait aussi notre premier 45 tours. Et au bout de 6 mois, c'est le premier album qui sortait.
Premier album qui sortait, oh là là, c'est magique. Et donc, on va vous avoir juste après Lucy Shame. Et après vous, il y aura Itty. Et oui, un superbe projet d'Eva. Eva, bonsoir.
Bonsoir.
Eva, donc tu vas jouer donc avec notre ami Lhomme, qu'on a reçu donc là, dans la précédente émission au QG 103, donc le 18 juillet, avec ton projet Itty. Donc voilà, tu peux nous dire en quelques secondes ton projet. Donc c'est un projet un peu, on va dire, moi je l'associe à la musique électronique concrète, voilà, donc un peu poussé.
Ouais, il y a un aspect comme ça. C'est un projet de musique électronique, mais j'ai beaucoup d'influence
rock et il y a une volonté de faire un truc organique et libre.
Organique et libre.
Ouais.
Et voilà, on va déguster ça tout à l'heure.
Voilà.
Avec Monsieur Lhomme. Bonsoir, Guillaume.
Ben, bonsoir. Je me rapproche du micro.
Guillaume, voilà, tu connais la maison, tu sais comment marche la technique, puisque tu es l'ingénieur du son, je le rappelle, de l'international. Donc tu connais très très bien la technique. D'ailleurs, en parlant de technique, je tiens à saluer notre ami Lolo, Laurent, de Tormentor Show notamment. Du label aussi démonique, voilà, donc un expert en son, un expert en électronique, et j'en passe, voilà, je salue aussi Joël, voilà, que vous avez entendu tout à l'heure en début d'émission. Bonsoir Joël. Et on fait un coucou à Anton qui est chez lui, voilà, qui reviendra dans la prochaine émission. Voilà, on continuera tout à l'heure avec l'agenda